Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel. On est jeudi 26 décembre 2019. Abdourahman Dia à la présentation. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, sortie du procureur de la République qui accuse Guillaume Soro de tentative de déstabilisation.
Pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot contre l'autorité de l'État.
Retour des vieux démons en Centrafrique. Plusieurs morts dans le quartier PK5 de Bangui après des incidents entre miliciens et commerçants. Nouvelle attaque meurtrière au Niger visant les forces de sécurité. Bilan au moins de 13 morts. Le Parlement turc va examiner le mois prochain l'envoi de troupes en Libye pour soutenir le gouvernement d'Union nationale. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Le procureur de la République en Côte d'Ivoire, Richard Radou, a présenté ce jeudi, lors d'une conférence de presse, ce qu'il qualifie de preuve de présomption grave de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. L'ancien chef rebelle est actuellement en Espagne depuis son retour avorté en début de semaine. On écoute le procureur Richard Radou.
Une information judiciaire a été immédiatement ouverte contre M. Soro Kibafuri Diome pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot contre l'autorité de l'État, de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Contre tous autres, pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot contre l'autorité de l'État. Contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamarate Suleimane, Nguessan René, la SCI EBU et tous autres pour présomption grave de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard et complicité des dix faits. Messieurs Alain Domoyon et 14 autres, pour les faits d'attentats et complots contre l'autorité de l'État, troubles à l'ordre public, diffusion de fausses données tendant à jeter le discrédit sur les institutions de la République.
Voilà, c'était le procureur de la République en Côte d'Ivoire, Richard Radou. Au Burkina Faso, l'activiste franco-béninois a écopé de 2 mois de prison avec sursis et 200 000 francs CFA d'amende à l'issue d'un procès à Ouagadougou. Il a été arrêté le week-end dernier pour propos insultants à l'endroit du président Roch Marc Christian Kabore lors d'une rencontre avec des étudiants. Il était poursuivi pour outrage à chef de l'État et à d'autres chefs étrangers. Au Niger, au moins 13 éléments des forces de défense et de sécurité sont morts dans une attaque. Ils escortaient une équipe de la commission électorale indépendante partie pour recenser les populations en vue des prochaines élections. Le point sur place avec Abdulrazak Idrissa.
L'information a été confirmée à VOA Afrique par le ministre de la Défense nationale, le professeur Issoufou Katambé.
C'est des éléments de la garde nationale et de la gendarmerie, quoi. Escortés une mission de la CENI. Ils sont tombés dans une embuscade vers 15h40 au niveau du village de Gagouzel. C'est à 86 km au nord-est de Dabalal. Donc pour l'instant, le village est de 13 qui sont morts.
Selon une source locale sur place à Abala, contactée par VOA Afrique, un des blessés a succombé à ses blessures. Les 14 corps seraient en train d'être rapatriés à Niamey. Aucune revendication pour l'instant de cette attaque qui intervient quelques jours après celle d'Inates le 10 décembre dernier qui a causé la mort de 71 soldats nigériens. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
C'était également Noël ensanglanté en Centrafrique. Des affrontements opposant une bande armée à un groupe de commerçants ont fait plus de 10 morts, une vingtaine de blessés et des dizaines de commerces incendiés. Cela s'est passé mercredi et aujourd'hui jeudi dans le PK5, le grand quartier musulman de Bangui. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
Dans la soirée du 24 décembre, alors que le PK5 était bondé du monde à l'occasion du marché de Noël, des hommes armés appelés autodéfense tirent en l'air et chassent tout le monde. À l'origine, une mésentente entre un commerçant et un élément armé qui voulait lui imposer des taxes à payer. Ce soir-là, l'incident s'est soldé par la mort d'un membre des groupes armés. Le 25 décembre, le jour de Noël, les deux camps, c'est-à-dire groupes armés et commerçants armés, ont repris les affrontements dans l'après-midi après plusieurs heures d'observation en chaîne de faïence. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les combats se sont intensifiés, faisant intervenir des tirs à l'arme lourde. Bilan provisoire, près d'une dizaine de personnes tuées, une vingtaine d'autres blessées et des dizaines de commerces incendiés. Les feux ont été maîtrisés grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Patrick Bidoulou Niabodé, directeur général de la protection civile.
Nous sommes mobilisés ce matin, depuis 5h30, sur le PK5, avec l'appui de nos parents, de nos frères qui sont au kilomètre 5, qui ne veulent pas cette situation-là, pour pouvoir venir en secours aux populations. Donc nous avons assisté les populations, mais aussi lutté contre les incendies.
Pour l'instant, les tirs ont cessé, mais la tension est encore palpable entre les belligérants. Cette situation a plongé non seulement les habitants du PK5, mais aussi ceux des autres secteurs dans la psychose. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La Turquie va envoyer des troupes en Libye à la demande de Tripoli. L'annonce a été faite aujourd'hui par le président Erdogan qui soumettra au début du mois de janvier un projet de loi en ce sens au Parlement turc. Le point avec Jacques Aristide.
Ankara a conclu il y a un mois deux accords avec le gouvernement libyen d'Union nationale, le GNA, qui est reconnu par la communauté internationale, l'un sur la sécurité et la coopération militaire et l'autre sur les frontières maritimes en Méditerranée orientale. L'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, qui tient la partie orientale de la Libye, mène une offensive en direction de Tripoli depuis avril dernier avec le soutien de la Russie, de l'Égypte et des Émirats arabes unis. Le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Ils aident un seigneur de guerre. Quant à nous, nous soutenons le gouvernement légitime du pays et acceptons son invitation. C'est ce qui nous différencie.
Le ministre de l'Intérieur du GNA a toutefois déclaré à Tunis que son gouvernement n'avait pas encore demandé à la Turquie d'envoyer des troupes. Pour Fatih Bachaga, si la situation s'aggrave, le GNA aura le droit de défendre Tripoli et ses habitants. Nous soumettrons une requête officielle au gouvernement turc pour nous soutenir militairement et chasser les forces mercenaires, dit-il.
Le gouvernement mozambicain annonce des escortes militaires pour les véhicules se déplaçant dans le centre du pays à la suite d'attaques dans cette région, bastion de l'ancienne rébellion de la Renamo. Le gouvernement a accusé l'ex-rébellion, aujourd'hui principal parti d'opposition, d'avoir organisé ces embuscades, ce que la Renamo nie catégoriquement. Les violences de cette semaine interviennent après la validation lundi par la Cour constitutionnelle du Mozambique des résultats des élections générales du 15 octobre. Le président sortant, Filipe Nyusi, a été réélu pour 5 ans et son parti, le Frelimo, a retrouvé sa majorité absolue au Parlement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le conflit social sur la réforme des retraites entre ce jeudi dans sa quatrième semaine. Le secteur des transports est toujours fortement perturbé avec des grèves et une nouvelle journée de manifestation prévue pour samedi. Le gouvernement est désormais déterminé à remplacer les 42 régimes de retraite existants par un système universel par points et à instaurer un âge pivot à 64 ans. Les syndicats opposés à ce projet maintiennent la pression. Le principal opposant russe Alexei Navalny a été libéré après avoir été brièvement interpellé alors que les locaux de son organisation de lutte contre la corruption ont été perquisitionnés. Peu avant son interpellation, l'opposant avait diffusé une vidéo montrant la porte du siège de son organisation forcée à la perceuse et à la scie électrique au moment où ses employés étaient en réunion. Ils ont choisi ce jeudi exprès car Alexis devait s'exprimer aujourd'hui, a indiqué son porte-parole. Les autorités n'ont pas communiqué officiellement sur le sujet. Le président américain Donald Trump a appelé Moscou, Damas et Téhéran à cesser de tuer des civils dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. La Russie, la Syrie et l'Iran tuent ou seront sur le point de tuer des milliers de civils innocents dans la province d'Idleb, a lancé le président des États-Unis sur Twitter en saluant la Turquie qui, dit-il, travaille dur pour stopper ce carnage. Depuis le 16 décembre, les forces syriennes soutenues par l'aviation russe ont intensifié leurs bombardements dans cette région et de violents combats au sol les opposent aux djihadistes et rebelles, malgré un cessez-le-feu annoncé au mois d'août. Et puis en Inde, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté ce jeudi dans plusieurs villes pour protester contre la loi sur la citoyenneté. Ces manifestations ont lieu au lendemain d'une démonstration de force d'un groupe paramilitaire proche du gouvernement nationaliste. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nanit Talani qui nous présente la Minute Éco.
La Zambie prévoit d'obliger les sociétés d'extraction de cuivre à déclarer l'or qu'elles produisent, cherchant à augmenter les revenus de ces ressources minérales. Le secrétaire permanent du ministère des Mines, Barnaby Mulinga, a déclaré lors d'une conférence de presse que la Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique, manque beaucoup de revenus car seule la mine de Kashanchi de First Quantum Minerals déclare sa production d'or. Le Gabon reçoit un prêt de 140 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour un projet routier qui comprend principalement la construction et le bitumage de la route Ndende-Dusala, longue de 49 km, et du pont frontalier entre le Gabon et le Congo sur la rivière Ngongo, annonce l'agence Ecofin. Le projet permettra aussi la construction et le bitumage d'environ 21 km de voirie à Libreville au bénéfice de plus de 100 000 personnes. Pour terminer, Huawei veut aider l'Égypte à développer ses industries pétrolières et gazières par la technologie. Pour cela, l'entreprise chinoise a organisé le premier sommet Huawei Egypt Oil and Gas en Égypte, où elle a présenté des solutions innovantes technologiques telles que les centres de données cloud et le réseau de transmission. Le directeur de Huawei pour l'Afrique du Nord, Seth Zhou, cité par Ecofin, a promis être très impliqué dans la modernisation des industries pétrolières et gazières égyptiennes en améliorant les systèmes informatiques et en favorisant la culture des talents numériques.
À présent, la page des sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahman.
On commence par le Boxing Day en Première Ligue en Angleterre, au lendemain de Noël, qui est un grand jour de foot.
Oui, le lendemain de Noël n'a pas été simple pour Tottenham, qui a mis toute une période à rentrer dans son match contre Brighton, qu'il a fini par battre 2-1. Pour la 19e journée de Première Ligue, les Londoniens remontent provisoirement à la 5e place avec 29 points à 3 longueurs de Chelsea. Battu tactiquement et dans l'envie par Chelsea, 2-0 dimanche dernier, les Spurs devaient une réaction à leurs supporters.
Et Leicester joue sa dernière carte pour perturber Liverpool.
Oui, c'est un duel au sommet ce lendemain de Noël avec le déplacement du leader Liverpool chez son dauphin Leicester, alors que City restera aux aguets pour la 19e journée de Premier League. La période du Boxing Day, le 26 décembre, est souvent un moment décisif dans la course au titre. Les Reds ont actuellement une avance de 10 points et il faut remonter à presque un quart de siècle pour trouver une équipe en tête avec 10 points d'avance à Noël et qui n'a pas fini championne.
En NBA, soirée de gala hier soir à Los Angeles pour le derby entre les Lakers et les Clippers.
Oui, les Los Angeles Clippers ont encore frappé un grand coup cette saison en dominant comme lors de l'ouverture de la saison. Les Los Angeles Lakers hier soir, 111 à 106, pour ce qui constituait la rencontre la plus attendue au programme spécial de Noël. Kawhi Leonard, 35 points et 12 rebonds, et les siens ont soufflé la victoire à leurs rivaux dans une fin de match marquée par un geste défensif décisif réussi par le meneur Patrick Beverley.
Hier, Boston gâche le premier Christmas Game des Raptors à domicile.
Oui, les Boston Celtics, forts d'un effectif au complet, contrairement aux Raptors, se sont imposés 118 à 102, gâchant quelque peu le premier match de Noël à domicile de l'histoire de Toronto. Mercredi en NBA, victoire aussi de Philadelphie sur Milwaukee, 121 à 109. Et Golden State a gagné 116 à 104 face à Houston.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Nord Kivu, dans l'est de la RDC, plusieurs membres de groupes armés se sont rendus ces derniers temps. L'armée congolaise dit avoir mis la pression sur ces groupes armés qui commencent à déposer les armes. Pour la société civile de la région, pas question de réintégrer ces ex-rebelles dans l'armée. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, nous fait le point.
Le général autoproclamé Doussa Bekachemere, alias Delta, l'un des seigneurs d'une branche du groupe Maïmaï Nyatura, est le dernier sur la liste à s'être rendu. Il a déposé des armes au même titre que ses 84 combattants des rangs, y compris certains de ses officiers. Doussa B, alias Delta, dit répondre ainsi à l'appel des nouveaux dirigeants de la RDC. Depuis le début de cette année qui s'achève, plusieurs seigneurs de guerre se sont rendus aux forces armées de la RDC, certains avec leurs troupes. Au dernier trimestre, l'armée a indiqué avoir neutralisé environ 6 grands chefs de guerre, plus de 300 armes ont été récupérées et plusieurs combattants arrêtés. Une offensive qui permettra de pacifier la région, selon le major Njike Kaiko, porte-parole FARDC Sokolade au Nord Kivu.
Mais aussi, nous continuons à mener des actions militaires de grande envergure. C'est cette pression-là qui a fait qu'aujourd'hui, le général autoproclamé Doussa B Delta puisse se remettre entre les mains des forces armées de la République démocratique. Il y a certainement ceux qui vont choisir pour continuer avec l'armée et ceux qui vont choisir pour redevenir civils. Et par rapport à ces deux choix, il y a des prêts.
La société civile qui appelle l'armée à renforcer la sécurité dans les villages et territoires d'où viennent ces miliciens ne veut pas cependant que ces ex-combattants ne soient réintégrés dans l'armée congolaise. Elle craint que la situation retourne à la case de départ comme il y a 10 ans. Placide Nzilamba est l'un des cadres de la société civile ici au Nord Kivu.
Si on leur dira de réintégrer l'armée, ça sera suicidaire pour cette armée-là. Parce que nous continuons à vivre les conséquences d'avoir intégré dans l'armée des personnes qui n'avaient pas la volonté de le faire. Ils doivent rester à la maison, les observer pendant 2 ans, 3 ans. Après, chacun pourra rédiger sa demande d'intégration au sein de l'armée et suivre le cursus normal de formation. Il n'est pas question d'amener des gens et qui disent non, je suis venu général, je dois être général. Non.
Actuellement, plusieurs villages dans les territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru et Lubero sont encore sous l'emprise des groupes armés et se vident régulièrement de ses occupants. L'armée congolaise, à la 34e région militaire, promet cependant d'intensifier sa pression sur tous ces groupes armés à travers l'opération Sokolade en cours ici au Nord Kivu. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
La dépigmentation des hommes est un phénomène de plus en plus fréquent au Sénégal, nous dit notre correspondant. Et si ceux qui le font avancent des questions de bien-être, cela est globalement mal perçu dans une société où l'ouverture d'esprit n'empêche pas le côté conservateur d'avoir une place importante dans la vision de ces choses. Notre correspondant à Dakar, c'est Dinar Bagay.
Nous, les vendeuses, ce sont les hommes qui achètent le plus, franchement parler. Ils viennent tout le temps pour acheter ces produits. Ils le font pour suivre la mode.
Ce commentaire de Sophie Diop montre à quel point les hommes ont jeté leur dévolu sur les produits de dépigmentation, généralement utilisés par les dames. Cependant, certains utilisateurs se défendent de les acheter pour suivre un effet de mode. Pour cet homme ayant requis l'anonymat, c'est avant tout une question de bien-être.
C'est juste que chacun a le choix de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai vu que la gamme que j'utilise m'arrange bien dans mon corps. C'est pour cela que je l'utilise. Je ne le fais pas pour me dépigmenter, mais je le fais parce que c'est naturel. Et j'aime le faire et ça ne me dérange pas. Ah, donc, pour se laver, c'est pour les femmes aussi. J'ai le droit de prendre soin de mon corps. C'est pour cela que j'ai acheté une gamme qui me va bien. Rien de plus. Ce que je sais, ça me va très bien et je le fais.
La pratique de la dépigmentation chez les hommes est très mal perçue par leur père qui juge cela dévalorisant. Pour Pape Matar Gueye, ceux qui le font sont souvent conditionnés par les tendances et l'envie de se faire voir.
C'est devenu un phénomène à la mode. On voit de plus en plus d'hommes se dépigmenter. Peut-être qu'ils ont des problèmes de peau, mais à mon avis, je ne cautionnerai pas ça. Parce que je ne le tolérerai même pas pour les femmes. Parce qu'on voit aujourd'hui que les réseaux sociaux ont pris une part importante dans notre vie quotidienne. On a besoin de se montrer et pour cela, on a besoin d'être impeccable. Alors pour eux, tous les moyens sont bons pour se faire voir. La dépigmentation, les épilations et j'en passe. Il y a beaucoup de choses que les hommes font maintenant alors que c'était à l'apanage des femmes ou bien des filles.
Les dames pratiquent de moins en moins la dépigmentation et certaines d'entre elles jugent que les hommes qui s'y adonnent font un mélange de genre au moment où les femmes s'éloignent de plus en plus de ces pratiques, comme l'indique Aramsen.
Les femmes elles-mêmes commencent réellement à voir la beauté d'une autre façon, c'est-à-dire le complexe qui les animait à se dépigmenter n'est plus. Donc je pense que cela ne fait que témoigner de l'irresponsabilité qui règne dans la vie des jeunesses et du sens de la responsabilité et voilà. Cela ne fait que prouver que la jeunesse d'aujourd'hui a de réels problèmes parce qu'ils devraient penser à autre chose, c'est-à-dire comment développer leur pays, comment faire pour améliorer les conditions de vie de notre pays, tout cela. Mais non, ce qui les importe c'est la mort, comment s'habiller.
Mode, tendance et dépigmentation sont des aspects de la vie auxquels les hommes s'intéressent de plus en plus. Dans une société sénégalaise ouverte, mais assez conservatrice sur certains points, ces pratiques, surtout la dépigmentation chez les hommes, demeurent très controversées. À Dakar, Seydina Aba Gueye pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, Washington Forum revient sur les grands sujets qui ont fait l'actualité durant l'année 2019 en Afrique. De la recrudescence des attaques djihadistes dans le Sahel à l'élection de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, en passant par le débat sur le troisième mandat qui fait rage dans certains pays, ou encore la réforme du franc CFA. Quel événement vous a le plus marqué durant cette année 2019 et pourquoi? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-nous ce jeudi à 19h temps universel.
Face à la multiplication des attaques des insurgés d'Al-Shabaab, les autorités somaliennes installent des caméras à Mogadiscio, la capitale. Les habitants et les commerçants locaux s'en réjouissent, mais certains spécialistes doutent de l'efficacité de l'initiative. Reportage de Mohamed Cheikh Nord avec le récit de Lionel Gaïma.
L'installation des caméras en circuit fermé a commencé ce mois-ci aux intersections des grandes artères de la capitale somalienne, comme l'avenue Maka al-Mukarma qui mène au palais présidentiel. La vidéosurveillance vise à prévenir les activités criminelles, explique Abdoulani Farah, directeur des affaires juridiques au ministère somalien de la Sécurité.
Ces caméras réduiront les attaques terroristes, ils décourageront les terroristes en suivant tous leurs mouvements. La population est très contente et pense que c'est un pas en avant. De nombreux habitants et commerçants de Mogadiscio se félicitent du déploiement des caméras dans le centre commercial, un secteur souvent pris pour cible par les militants islamistes. Dega Salad est une femme d'affaires locale.
Ces caméras vont décourager toute activité criminelle. Même les petits voleurs voudront les éviter par crainte d'être attrapés.
Le politologue Hassan Baris ne partage pas cet optimisme. La vidéosurveillance, souligne-t-il, ne peut rien contre les kamikazes. Ceci étant persuadé que leur récompense les attend dans l'au-delà. Les autres ont subi un profond lavage de cerveau ou ont été sérieusement conditionnés à ne rien craindre. Ils sont persuadés qu'ils iront au paradis. Les caméras elles-mêmes auront besoin d'être protégées contre les actes de vandalisme. Elles seront surveillées de près par une équipe spéciale, a assuré Ibrahim Hadji, directeur de la communication au ministère de la Défense. Par ailleurs, les autorités somaliennes entendent accélérer la formation et le déploiement des policiers et des agents de services de renseignement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, l'année 2019 a commencé par des acclamations au Congrès lorsqu'un nombre record de femmes et de membres des minorités ont prêté serment pour devenir législateurs. Mais quand les 435 députés et 100 sénateurs se sont mis au travail, les politiques de parti ont bien souvent freiné les progrès au sein de ce Congrès très polarisé. Caroline Presutti s'est penchée sur le bilan annuel des législateurs américains avec un récit de Dilidico.
L'année a commencé avec la fermeture du gouvernement fédéral pendant une durée record de 35 jours, choquant les nouveaux législateurs qui ont ainsi eu droit à un petit cours de rattrapage sur la politique américaine.
Il n'y a pas de période d'échauffement. Nous sommes arrivés le 3 janvier, nous avons prêté serment et dans les heures qui ont suivi, nous avons voté sur des projets de loi pour ouvrir le gouvernement.
Mais le gouvernement fédéral est resté fermé jusqu'en fin janvier, retardant jusqu'à février le discours annuel du président au Congrès.
Nous pouvons dépasser les divisions profondes, guérir les vieilles blessures et construire de nouvelles coalitions.
Ces aspirations se révèlent rarement réalistes lorsqu'un des partis, dans le cas présent les démocrates, détient la majorité à la Chambre des représentants et que l'autre parti, les républicains, détient la majorité au Sénat.
Tout le monde pointe l'autre du doigt et cela donne lieu à une impasse pendant laquelle il n'y a pas beaucoup de mouvements et pas de nouvelles politiques. Je pense que les Américains espéraient que les choses allaient bouger davantage.
À la mi-décembre, le Congrès avait adopté 90 projets de loi qui sont par la suite devenus des lois, faisant de cette année l'une des moins productives de l'histoire moderne. Comme pour en renchérir à l'impasse, cette année, les audiences de destitution du président Trump ont monopolisé la Chambre des représentants.
Aux États-Unis, aucun président n'est censé être un dictateur.
À la surprise de nombreux observateurs, les députés ont ensuite conclu un accord avec Trump pour passer la loi relative au traité commercial avec le Mexique et le Canada.
Il est toujours le président et en politique, si vous voulez faire avancer les choses, vous devez travailler avec le président. Les politiciens sont les personnes qui arrivent plus facilement que les autres à faire la part des choses. Ils savent qu'ils doivent faire avancer cette législation.
Quant au projet de loi sur l'immigration, les soins de santé et le contrôle des armes à feu, ils ont cette année été mis au second plan. Néanmoins, un accord budgétaire de fin d'année a permis de financer la recherche en matière de sécurité autour des armes à feu et également la construction de certains murs frontaliers. L'âge d'achat des produits dérivés du tabac a été augmenté à 21 ans. Sur le plan international, 2019 a donné lieu à de nouvelles lois favorisant les droits de l'homme et l'autodétermination pour les Hongkongais.
Nous sommes reconnaissants au président d'avoir signé cette loi.
Du côté de la défense, les efforts du Congrès visant à interdire la vente d'équipements militaires à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Italie ont tous échoué en raison de veto présidentiel. Pareil pour les efforts visant à mettre fin à la participation des États-Unis à la campagne militaire de l'Arabie Saoudite au Yémen. Selon les experts, cette lancée productive du Congrès devrait prendre fin en janvier, lorsque la campagne va battre son plein en vue de la présidentielle de 2020.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin. La console, Wagner Robert. Présentation, Abdelrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.